Juges chapitre 13, vous savez, on parle beaucoup de Samson, hein, le fameux Superman, si je puis dire. Il y a tout un numéro. Et puis là, on parle de ses parents. Un épisode qu'on ne connaît pas trop. Pas la première fois. Quand j'ai lu ce livre il y a peut-être 2 ans, en dépoussiérant un peu ma connaissance du livre des juges, j'ai lu ce chapitre, et à la fin je me suis dit, si tu devais prêcher là-dessus, tu serais mal. Qu'est-ce qu'il faut dire à partir de cette histoire ? Puis Dieu merci, en creusant, j'ai pu en fait m'apercevoir que, je pense, le Seigneur a un message pour nous aujourd'hui dans ce texte, qui peut même nous éclairer, nous reprendre, nous aiguillonner sur la manière de comprendre l'Évangile et la grâce du Seigneur. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin. Je lis donc dans Juges 13, tout le chapitre. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra aux Philistins pour 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, nommé Manoa, dont la femme était stérile, elle n'avait pas eu d'enfant. Le messager du Seigneur, l'ange de l'Éternel, suivant vos traductions c'est pareil, apparut à cette femme et lui dit, « Toi qui es stérile, qui n'as pas eu d'enfant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant je te prie, prends bien garde, ne bois ni vin ni boisson alcoolisée et ne mange rien d'impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera un nazir de Dieu, dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » La femme vint dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'aspect d'un messager de Dieu très redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, « Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin, ni boisson alcoolisée, ne mange rien d'impur. » Parce que cet enfant sera nazir de Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoa supplia le Seigneur, « Pardon Seigneur, je t'en prie que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous pour nous enseigner ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu entendit Manoa et le messager de Dieu revint vers la femme. Elle était assise dans la campagne. Manoa, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite dire à son mari, « L'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est encore apparu. » Manoa suivit sa femme, alla trouver l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoa dit, « Maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelles seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant ?» Le messager du Seigneur répondit à Manoa, « La femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai ordonné. » Manoa dit au messager du Seigneur, « Laisse-nous te retenir et t'apprêter un chevreau, je te prie. » Le messager du Seigneur répondit à Manoa, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton pain. Mais si tu veux faire un holocauste au Seigneur, fais-le. » Manoa ne savait pas que c'était le messager du Seigneur. Alors Manoa dit au messager du Seigneur, « Quel est ton nom ? Pour que nous te rendions gloire quand tes paroles se réaliseront. » Le messager du Seigneur lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est étonnant. » Manoa prit le chevreau et l'offrande végétale et il fit un holocauste sur le rocher pour le Seigneur qui agit de façon étonnante. Manoa et sa femme regardaient. Comme les flammes montaient de l'autel vers le ciel, le messager du Seigneur monta dans les flammes de l'autel. Quand ils virent cela, Manoa et sa femme tombèrent face contre terre. Ainsi, le messager du Seigneur cessa d'apparaître à Manoa et à sa femme. Alors, Manoa sut que c'était le messager du Seigneur. Manoa dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si le Seigneur avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté l'holocauste et l'offrande végétale, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme mit au monde un fils, et elle l'appela du nom de Samson. L'enfant grandit, et le Seigneur le bénit. Le souffle du Seigneur commença à le travailler à Maan et Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Jusqu'ici notre lecture. Un texte un petit peu étonnant, hein, d'ailleurs le mot est dans le texte. Et je vous propose de suivre, et j'ai préparé un petit PowerPoint, et je vais faire des signaux très subtils au fond de la salle pour passer d'une diapo à une autre. J'ai donné comme sous-titre à ce texte, c'est apocryphe, hein, c'est moi, l'évangile d'Ikea. Et je veux pas de procès, je ne suis ni pour ni contre, j'ai même, oui, j'ai des, vous savez, des étagères Billy avec mes livres, hein, chez moi, donc je suis pas contre, hein, je fais pas de pub non plus. Mais je vais essayer de vous dire pourquoi l'évangile, version Manoa, c'est un petit peu Ikea. Mystère, on va voir ça. Alors je vous propose trois étapes. Trois étapes, un plan très simple. Nous allons d'abord parler de Manoa, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire, quel est le profil spirituel de cet homme, qu'est-ce que le Seigneur lui montre, lui apprend. Ensuite, nous ferons une petite comparaison rapide avec Samson, qui est beaucoup mieux connu, et on essaiera de voir un petit peu, finalement, pourquoi est-ce qu'on nous parle de son père pendant un long chapitre, alors que notre héros, d'habitude, c'est Samson. On fera une petite comparaison. Et puis finalement, on discutera des applications de ce texte. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a voulu que nous ayons ce chapitre un petit peu étonnant dans nos Bibles? En quoi est-ce qu'il peut nous réveiller, nous faire réfléchir à notre vie spirituelle aujourd'hui, concrètement, en particulier si nous sommes étudiants à l'IBG ou ailleurs en théologie? Alors commençons donc par parler de Manoa. Il faut d'abord se remettre un petit peu dans le contexte. Alors, vous allez parler amplement des juges, hein, les étudiants. Mais il faut se rappeler d'une chose. Il faut se rappeler que dans le livre des juges, on a constamment un schéma qui se répète. Une sorte de cycle un peu infernal. En quatre étapes. C'est juste pour vous rappeler ça. Première étape, le peuple de Dieu, les fameuses 12 tribus, a tendance à se détourner du Seigneur et de l'alliance conclue avec Moïse en se livrant à l'idolâtrie. Ils cèdent à la tentation des dieux étrangers ou des dieux qui sont présents en Canaan. Deuxième étape, le Seigneur livre son peuple entre les mains de pays étrangers. En général, c'est les Philistins qui font le travail. Troisième étape, le peuple réalise quand même qu'il y a un problème et il crie au Seigneur. Il appelle le Seigneur au secours. Quatrième étape, le Seigneur suscite un libérateur, ce qu'on appelle un juge. Et ça, c'est un schéma qui se répète une fois, deux fois, trois fois, etc. Le livre des juges, c'est un petit peu ça. Parce qu'à chaque fois, le peuple retombe dans les mêmes problèmes. Finalement, il appelle le Seigneur, tout va bien, et on rechute, et on recommence. C'est une sorte de cycle. Sauf que, arrivé à notre chapitre, chapitre 13, il y a une anomalie. Je vous rappelle le premier verset. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Ah, étape numéro 1. Deuxième étape, le Seigneur les livra aux Philistins pour 40 ans. Ça va. Troisième étape, vous pouvez chercher tant que vous voulez, prenez le chapitre, vous le secouez dans tous les sens, le peuple n'appelle pas le Seigneur au secours. Ça, c'est bizarre. Et la quatrième étape, elle est présente, mais de manière très subtile. C'est un messager du Seigneur qui annonce à la mère de Samson que son fils va, alors non pas délivrer Israël, mais... il y a une nuance importante. Commencez à délivrer Israël. Et si vous lisez le livre des juges jusqu'à trois chapitres plus loin, vous verrez que, avec Samson, et pourtant c'était un héros de la foi spectaculaire, le peuple n'est pas totalement délivré de la main des Philistins. Donc déjà, on tombe sur un texte où il y a une anomalie. C'est une situation étrange. Et puis aussitôt, on tombe sur l'histoire d'un couple. Il y avait un homme de Tsoréa, etc. On passe du peuple, la situation générale, à un couple banal apparemment. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un couple étrange, un peu comme le peuple. Vous savez, des personnes qui souffrent de la stérilité, dans la Bible, il y en a un paquet. On a pas mal de couples qui fonctionnent comme ça, qui souffrent, qui crient au Seigneur, et le Seigneur intervient miraculeusement. Le Seigneur a donné des enfants à Abraham, à Isaac, à Anne, etc., etc. Des naissances miraculeuses. Oui, mais sauf que ici, le couple est vraiment étrange. On ne le voit pas prier le Seigneur. Alors on peut toujours se dire, bon, peut-être que c'est un silence, mais c'est le genre de choses que les narrateurs de la Bible signalent systématiquement. Et quand c'est un exaucement du Seigneur que la naissance d'un enfant, le narrateur nous le dit. Ici, non. On ne nous dit pas que le couple prie. En fait, c'est le Seigneur qui prend l'initiative en envoyant un messager qui dit eh, « Vous allez avoir un enfant ». Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'une fois qu'on leur dit qu'ils vont avoir un enfant, un fils, et je vous rappelle que dans le contexte de l'époque, c'était une sorte de catastrophe, d'épreuve personnelle que de ne pas avoir d'enfant. C'était vécu comme ça, et ne pas avoir de fils, c'était encore plus embêtant pour des questions d'héritage, des questions peut-être de prestige. C'était vraiment une tragédie personnelle. Ben, ces personnes, quand on leur dit de la part du Seigneur qu'ils vont avoir un enfant qui va naître, et je présume que c'est miraculeux, aucune réaction émotionnelle. Vous allez avoir un fils, aucun remerciement, aucune joie. On ne parle pas d'un couple qui se réjouit d'avoir un fils alors que ça fait des années qu'ils ne peuvent pas en avoir. Pas de réaction émotionnelle. Vous savez, d'habitude, quand on a des personnages bibliques auxquels le Seigneur annonce qu'ils vont avoir un enfant, alors que normalement ce n'est pas possible, pour cause de stérilité, on a différentes réactions. On a qui y croient à peine, ou qui, comme Sarah, rit. Si non, mais c'est pas possible, moi, à mon âge, un enfant. Bon. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont pleins de joie. Pensez à Anne, la mère de Samuel, qui prie et qui est exaucée par le Seigneur. On lui annonce ça. Elle est joyeuse. Elle remercie l'Éternel. Là, rien de tout ça. Ça, c'est vraiment étrange. C'est le seul couple qui fonctionne comme ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, d'ailleurs. Alors, ma conclusion, c'est qu'on ne parle pas de ce couple pour rien à cet endroit. C'est qu'en fait, ce couple sert d'illustration en miniature pour l'attitude globale du peuple qui, on l'a vu, ne se tourne même plus vers le Seigneur. Le peuple est dans une épreuve globale à cause des Philistins. On n'a pas la prière qui, en principe, est l'étape numéro 3 dans notre schéma. Le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. On n'a pas la prière qu'on a normalement dans cette situation. Donc on a l'impression qu'en faisant un zoom sur un seul couple comme ça, l'Esprit de Dieu, dans ce texte, veut mettre le doigt sur une réalité spirituelle qui est vécue par des individus et qui nous éclaire sur la situation spirituelle dans tout le pays. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de faire dans ce texte. On a un problème global avec le peuple, bon ça c'est l'histoire, c'est passionnant, mais il y a un problème spirituel sous-jacent. Il y a une spiritualité qui ne va pas. Et le Seigneur, un peu comme un docteur, hein, il va prendre des patients, il va nous les montrer pour essayer de faire un diagnostic. Et ça peut être utile pour nous aussi. Ça c'est le couple. Maintenant regardons un petit peu Manoah. Manoah, c'est un drôle de numéro aussi. Réaction à la nouvelle, tu vas avoir un fils. Moi, je sais pas, j'aurais bondi au plafond. Hein, moi, j'ai un fils de 18 mois. C'est quelque chose, quand même, d'avoir un enfant. Fils, une fille, hein, d'ailleurs. Réaction de Manoah, ni merci, ni rien. Immédiatement, il se met en mode, je prie. Bon, ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il prie? Pas merci, Seigneur. Pas, enfin, je vais avoir un fils. Rien du tout. J'ai besoin de règles. Seigneur, renvoie vers nous le messager qui est venu parler à ma femme, qu'il nous enseigne. Il veut un cours. Il veut qu'on lui donne un cours, des règles, des instructions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce gamin qui va naître, qui en plus sera un nazir de Dieu? Je veux le manuel d'instruction. Vous voyez Kier qui n'est pas très loin dans ma tête. Il commence à se faire du souci. Et d'ailleurs, il est tourné vers le futur. Il est au taquet, si je puis dire. On parle comme ça en France, en tout cas. Il est en train de se dire, mais alors dans 9 mois... qu'est-ce qui va se passer? J'ai un gamin qui va naître. Bon, entre parenthèses, la grossesse, c'est déjà une belle aventure. Hein pour les mamans, pour les pères aussi, ça peut être assez rock'n'roll. Enfin, lui, il commence déjà à se préoccuper de la naissance. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu stressé quand même. Manoah, en fait, et c'est ça, comme ça que je résume, il va directement à la case « Quels sont mes devoirs? Quelles sont mes responsabilités ?» sans passer par la case « réjouissance, joie, ni d'ailleurs par la case remerciement. Apparemment, il n'a pas envie de remercier le Seigneur qui, quand même, lui fait plus qu'une fleur. il intervient, c'est quelque chose de spectaculaire que la naissance d'un enfant, en cas de stérilité. Ça, c'est quand même étonnant de sa part. Ce manois qui directement pense au souci qu'il a à se faire, à son devoir, ses responsabilités. Alors, ça c'est pour manois, mais on n'a pas fini. On a également un manois qui s'intéresse beaucoup à ce fameux messager du Seigneur, ange de l'Éternel, ce que vous voulez. Et il lui pose des questions. Et le dialogue est très intéressant. Première chose qu'il lui demande, est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme ? Bon, entre parenthèses, s'il avait cru sa femme, la question ne se serait pas posée. C'est vrai, d'ailleurs, il a besoin. Bon, c'est comme ça. Vous savez, les femmes dans le livre des juges, elles sont souvent maltraitées alors que ce sont les plus intelligentes. Ce n'est pas une vérité générale, mais c'est... Enfin, je vous laisse décider de ça. Mais dans le livre des juges, c'est vrai. Bon, alors, l'ange lui dit, c'est moi. Très bien, on le sait déjà. Deuxième question, quelles seront la règle, la conduite à tenir quand tes paroles se réaliseront, quand cet enfant va naître ? Donne-nous les règles. Je vous rappelle qu'il a déjà donné les règles à la femme. Que fait notre fameux messager ? Quelle est sa réponse ? Et bien, si vous lisez, en fait, il ne dit rien de neuf. Il ne fait que répéter ce qu'il a dit à la femme. Et même, il ne donne pas toutes les informations. Il ne reparle pas du rasoir. On ne mangera pas du produit de la vie, ni vin, ni boisson alcoolisée, rien d'impur. Et puis il dit deux fois, elle se gardera de tout ce que je lui ai dit, elle observera tout ce que je lui ai ordonné. Donc, c'est ce qu'a dit ta femme, quoi. Il est en train de simplement répéter. Manoah, apparemment, n'est pas très satisfait. Il faut dire qu'en fait, ces règles ne le concernent pas directement en tant que père. Vous savez, quand vous avez un enfant qui naît, vous dites, alors la mère, d'accord, elle a une liste de choses à faire incroyable. Puis le père, qu'est-ce qu'on fait ? À la naissance, en fait, les infirmiers ont pitié de vous, ils vous font couper le cordon ombilical. Mais c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire, quoi. Alors là, le problème, c'est que les règles, ça ne le concerne pas. Et lui, il veut des règles. Je veux des instructions. Je veux le manuel Ikea. Bon. L'ange ne lui apprend rien. Alors, ça valait bien la peine de revenir à ce moment-là. On va voir pourquoi ça valait la peine que ce messager revienne. Alors, troisième question. C'est même pas une question, c'est une requête. Puisque Manoah ne peut rien faire. Au moins, je vais offrir l'hospitalité à cet homme. Laisse-nous te retenir et t'apprêter un chevreau. Et là, le messager du Seigneur fait ce qui se fait jamais normalement dans l'Orient ancien, et même aujourd'hui, il refuse. Quand bien même tu me retiendrais, je ne mangerai rien. Faites ça, essayez de faire ça un petit peu en Israël, en Jordanie. Essayez de faire ça avec des bédouins. J'en rappelle être retrouvé chez un bédouin avec d'autres étudiants. On nous a offert du thé. Vous savez, les verres des bédouins, moi je suis fils d'infirmière, ascendant suisse. J'aime bien qu'on les a passés au pec citron, quand on les avait nettoyés. Verre de bédouin, j'ai pas de garantie. Et je respecte les bédouins. Mais enfin, si vous refusez du thé qu'un bédouin vous offre, alors là, c'est l'insulte. Refuser l'hospitalité à l'époque de Manoah, c'est une insulte. C'est limite insulte. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, là, ce fameux messager ajoute quelque chose de nouveau. Il dit, si tu veux faire un holocauste au Seigneur, fais-le. On va revenir là-dessus. Et puis, dernière question, dernière requête. Quel est ton nom pour que nous te rendions gloire quand tes paroles se réaliseront ? Réponse de l'ange, pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est étonnant. En fait, l'ange ne répond pas. Il est étonnant, c'est une façon de ne pas répondre. Donc en fait, dans tout ça, si on fait le bilan, on peut remarquer les choses suivantes. Manoah, lui, cherche à tout prix à faire quelque chose. Il veut des règles, des instructions. Et puis, à défaut, au moins il veut offrir l'hospitalité à ce fameux messager. Et puis, au moins qu'il puisse rendre gloire, enfin qu'il puisse faire quelque chose. Et le messager, lui, ce qui est étonnant, c'est que en revenant vers Manoah, enfin sa femme d'abord d'ailleurs, en revenant vers ce couple, il ne répond en rien aux requêtes, aux demandes de Manoah. Manoah pose quatre questions, quatre requêtes. Sur aucun point, le messager n'apporte quelque chose que Manoah attendait. Ça, c'est quand même étonnant. Mais il y a une chose, une nouveauté. C'est sa suggestion. si tu veux faire un holocauste au Seigneur, fais-le. » Ça, c'est intéressant parce que ça vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Manoah ne dit pas du tout merci à Dieu dans l'histoire. Manoah ne réagit pas avec joie, avec reconnaissance envers le Seigneur. Il passe tout de suite à la case « qu'est-ce que je vais devoir faire ?» En fait, le cadeau que le Seigneur lui fait, ça devient un fardeau. Ça devient une occasion de se dire « quelles sont mes responsabilités ?» Et l'ange lui dit, mais je le dis comme ça, je paraphrase, hein. Si jamais tu veux faire un holocauste au Seigneur, te gêne pas, quoi, vas-y. Il est peut-être temps de remercier le Seigneur. Et si vous regardez un petit peu, vous verrez qu'en fait, Manoah ne s'exécute pas tout de suite. Si vous regardez le texte, l'ange, enfin, le messager, suggère à Manoah de faire un holocauste, et Manoah ne se met pas tout de suite à dire « Oh là là, mais oui, mais tu as raison, j'ai même pas pensé à rendre hommage au Seigneur. » C'est comme ça qu'on pouvait rendre hommage au Seigneur, en faisant des sacrifices ou en priant. Non, non, non. Manoah est encore obnubilé par le mystère du jour qui est ce fameux messager. Ça, c'est intéressant, ce délai qu'il met avant d'offrir l'holocauste au Seigneur. Alors, effectivement, Manoah est un peu obsédé par ce problème. L'énigme de l'identité du messager de Dieu. Pour nous, hein, les lecteurs, le problème est réglé dès le départ. On vous le dit tout de suite, le messager du Seigneur, verset 3, apparut à cette femme. Donc nous savons qui c'est. C'est le messager du Seigneur. Et puis il y a plein d'endroits, je pense que l'auteur s'est amusé, il y a plein d'endroits où on dit le messager du Seigneur dit à Manoah, le messager du Seigneur dit à Manoah. Et puis en attendant, Manoah, tout ce qu'il dit lui, c'est l'homme de Dieu. Sa femme, elle a compris apparemment, en tout cas, elle soupçonne quelque chose. Elle dit, il avait l'aspect d'un messager du Seigneur. Très redoutable d'ailleurs. Donc, elle a senti quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que l'intuition féminine, mais bon. Manoah, lui, dit juste, homme de Dieu, Seigneur, que l'homme de Dieu revienne. Et tout le long, il ne comprend pas à qui il a affaire. Même, je crois, au verset 21, on vous dit que Manoah n'avait pas compris qu'il avait affaire au messager du Seigneur. En fait, c'est ce qui est ironique, c'est que c'est au moment où le messager disparaît qu'il comprend à qui il avait affaire. Assez étonnant. Alors, ce problème de l'identité du messager de Dieu, on a l'impression que ça a capté l'intérêt, l'énergie de Manoah, à tel point qu'il ne va pas se mettre tout de suite à faire un holocauste au Seigneur. Il va lui dire, mais donne-nous ton nom, comme ça, quand ça va arriver, quand il va naître l'enfant, on va te rendre gloire. Ah oui, ce fameux bonhomme qui était venu chez nous, de la part de Dieu, qui nous avait annoncé cette nouvelle, on va lui rendre gloire. Sorte de détournement par rapport au Seigneur. Alors, si on réfléchit un petit peu, c'est ironique tout ça. C'est tristement ironique. C'est éloquent même. Parce que la personne qui avait suggéré à Manoah d'offrir un holocauste à Dieu, donc de rendre hommage à Dieu, eh bien, d'après Manoah, à la fin, c'est Dieu lui-même. Il dit à sa femme, mais nous avons vu Dieu. Vous savez, c'est compliqué de savoir l'ange de l'Éternel, est-ce que c'est un ange, est-ce que c'est le Seigneur, est-ce que c'est Christ, tout ça. Je ne rentre pas là-dedans. Ce qui est certain, c'est que Manoah a compris qu'il avait affaire à bien plus qu'un homme de Dieu. Il a mis toute l'histoire à le comprendre. Mais une fois qu'il a réalisé, il se dit, mais c'est comme si j'avais vu Dieu. Mais alors nous, ce que ça veut dire pour nous, c'est que cet homme qui a dû glisser comme ça une parole en disant, mais si tu veux faire un holocauste au Seigneur, ne te gêne pas. Mais c'est Dieu lui-même. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu comme quand vous avez votre épouse, mais plutôt l'impression que c'est avec les femmes que ça se passe, qui est obligé de faire une petite campagne publicitaire discrète à quelques jours de l'anniversaire de mariage, ou de son anniversaire, disant « Ah, c'est bientôt, ouais, c'est bien, hein, c'était bien quand on s'est marié il y a 3 ans, à 4 ans, tout ça. » Ça pour que l'homme fasse tilt et qu'il réalise un petit peu que ça serait sympa. Voilà. Je dis pas que c'est vexant, mais enfin, bon, heureusement que les femmes sont patientes avec nous. Mais c'est quand même triste que le Seigneur ait besoin lui-même de suggérer à Manoah de le remercier. Parce que c'est ça, en fin de compte. C'est ça l'ironie du texte. Et c'est pire que ça. Parce que si on réfléchit, la personne à qui Manoah voulait absolument rendre gloire, au point qu'il n'offre pas tout de suite l'Holocauste, il lui dit, mais dis-nous ton nom, au moins on te rendra gloire. Au lieu de donner l'Holocauste au Seigneur. Hein. Pour lui, c'est un homme de Dieu exceptionnel, mais donne-nous ton nom. Ben, cet homme-là, Manoah reconnaît que c'est Dieu lui-même. Alors réfléchissons un petit peu. Manoah n'était pas très pressé d'offrir un holocauste au Seigneur. Par contre, il était vraiment intéressé, il était pressé de connaître l'homme, connaître le nom de fameux messager, pour lui rendre gloire à lui. Le Seigneur d'un côté, l'holocauste, ok, on va voir ça après. Mais par contre, cet homme de Dieu, je veux savoir son nom, je veux lui rendre gloire. Donc il y a une sorte de décalage comme ça. Ouais. Sauf que finalement, ce messager du Seigneur, à la fin, Manoah a dit, mais c'était Dieu lui-même. Est-ce que c'est pas triste ça, quand c'est le Seigneur lui-même qui doit nous faire comprendre qu'il faut le remercier? Étonnant. Alors, finalement, la suggestion de Manoah, fais un holocauste si tu as envie, ne te prive pas de le faire. Et puis, vous avez vu, hein, ce messager qui monte dans la flamme vers le ciel. Tout ça, je pense que c'est une façon de rediriger Manoah vers Dieu lui-même. Vous savez, hein, quand vous êtes sur Internet, parfois on vous dit redirection vers telle page. Mais là, Manoah est tellement obsédé par ses propres responsabilités, il est tellement obsédé par l'identité de ce messager, qu'on a l'impression qu'il oublie de lever les yeux vers le ciel et de remercier ce Dieu qui lui fait un cadeau immense. Quand Manoah s'adresse à Dieu, ce n'est pas pour dire merci, c'est pour lui faire part de ses soucis et demander un cours sur comment on va gérer cet enfant. Rediriger Manoah vers le Seigneur, en levant les yeux au ciel, quand ce fameux messager s'envole vers le haut, ou en faisant monter un holocauste. Dans toute cette histoire, on a un Manoah qui est préoccupé par plusieurs choses, sauf la plus importante, le Seigneur. Alors, pour conclure, Manoah, il me semble, représente le croyant qui fonctionne au devoir. Vous savez, celui qui vraiment est tellement concerné par ses responsabilités, ses devoirs, qu'en fait, il en finit par oublier des choses. Et il finit par ne plus avoir même le temps de remercier Dieu. Tout de suite, c'est « qu'est-ce que je vais devoir faire ? Donnez-nous les règles !» Et puis, ce Manoah ne lève plus les yeux vers le ciel. Ce qui me fait penser à ce peuple, ces Israélites, au temps des juges, chapitre 13, qui ne passent même plus par l'étape 3 du schéma, qui ne prient même plus le Seigneur. Et puis enfin, Manoah a perdu le bon sens de la grâce de Dieu. Et ça, on le voit grâce à son épouse, qui est plus perspicace que lui, parce qu'une fois qu'il se dit, mais alors on a vu Dieu, mais on va mourir, on ne peut pas voir Dieu, on meurt dans ces cas-là. Sa femme, elle a du bon sens. Elle dit, mais attends, mais si Dieu a fait tout ça, s'il a accepté notre holocauste, il nous a fait entendre toutes ses paroles, accessoirement on pourrait dire qu'il leur donne un enfant, c'est pas pour nous faire mourir, mais c'est du bon sens de base ça. Mais Manoah, j'ai l'impression qu'il connaît tellement peu le Seigneur, ou il s'est tellement éloigné, il regarde tellement peu au ciel, qu'il a perdu ce bon sens d'un Dieu bienveillant qui veut lui faire du bien tout simplement, qui lui fait un cadeau tout simplement. Ce bon sens de la grâce de Dieu, on a l'impression que Manoah l'a perdu de vue. En fait, il n'a même pas réalisé que Dieu veut lui faire du bien. Ah oui, quand je vous dis qu'il y a une situation spirituelle intéressante, là, je pense que ça peut parler à notre spiritualité. Et on va y venir à la fin. Voilà pour Manoah, pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous parle de Manoah alors qu'en fait, le vrai héros, c'est Samson? Pourquoi est-ce qu'on a un long chapitre hein, sur ce Manoah et sur son épouse, qui n'a pas de nom? On ne nous en donne pas. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors c'est vrai que ça prépare hein, l'histoire de Samson. On a, je ne dis pas son extrait de naissance, mais enfin on vous dit, voilà. Voilà les parents de Manoah, voilà ce qu'un messager du Seigneur a dit dès le départ. C'est comme pour Jésus. On annonce dès avant la naissance le programme de cet homme de Dieu pour l'œuvre du Seigneur. On a un programme, on sait que ça va être un nazir. C'est des nazirs, des gens qui étaient un peu mis à part, qui offraient un moment de leur vie pour le Seigneur et qui respectaient certaines règles. Là, ça va être un nazir toute sa vie. Et c'est le Seigneur qui l'a décidé. C'est exceptionnel. Et c'est un personnage qu'on retrouvera dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, hein, la galerie des héros de la foi, on dit parfois. Des gens qui, par foi, ont agi pour le Seigneur, ont supporté des épreuves. Mais en même temps, c'est un personnage assez, assez rock'n'roll, disons-le. Alors, je ne vais pas insister sur les aspects positifs de Samson. Je veux juste vous dire ce en quoi c'est intéressant de le comparer avec son père. Et là, je crois qu'on va comprendre pourquoi on a ce chapitre sur Manoah. Jetons un petit coup d'œil sur Samson. D'abord, en résumant, je vous rappelle une chose importante à comprendre, sans quoi on passe à côté de l'essentiel. Samson, il a une puissance de Dieu incroyable. L'Esprit de Dieu est sur lui, on le voit à la fin de notre texte. Il va lui permettre d'avoir une force extraordinaire. Mais vous rappelez que Samson a des règles à respecter. Et ce qui est très étonnant dans les épisodes de la vie de cet homme, c'est que presque à chaque étape, il va jouer avec les limites de ses règles. Il joue avec les limites, c'est borderline, c'est limite. Il flirte avec les limites. Et je vous dis vraiment en quelques secondes, hein. D'abord, première règle, ne rien consommer de tout ce qui provient de la vigne. Mais rien du tout. Pas de boisson alcoolisée. Et on vous dit que Samson, quand il se marie, il offre un banquet. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais alors il était sage, il n'a pas bu de vin. Ben, c'est possible. Mais ce n'est pas la chose la plus maligne à faire, la plus intelligente à faire, quand on a ce genre de règles à respecter. Il se met dans une situation qui est limite. Deuxième chose, il ne doit pas s'approcher d'un cadavre. C'est rien d'impur, c'est la règle dans le livre des Nombres. Un nazir ne s'approche pas d'un cadavre. Que fait Samson ? Que fait Samson ? Il prend du miel dans la carcasse d'un lion. Alors, vous aimez, il n'a peut-être pas touché le lion. Ok. Ok, mais enfin, c'est un peu limite. Il va prendre la mâchoire, le texte nous dit la mâchoire fraîche. Hein. Les juges, ça y va franchement. La mâchoire fraîche d'un âne pour tuer des gens. La mâchoire fraîche d'un âne. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais alors dans le livre des Nombres, on donne les règles sur le nazir, on dit de ne pas approcher d'un cadavre, mais laisser des animaux, est-ce que c'est compté dans les règles ou pas, tout ça. Enfin, quand on commence à se prendre la tête sur les détails comme ça, qu'est-ce qu'on a le droit de faire juste jusqu'au bout sans franchir la limite, c'est pas très très bon signe à mon avis. Et puis finalement, il tue des gens. Alors vous allez me dire, il les tue juste au moment où ils sont vivants, après ils sont morts, mais il a peut-être pas tout... D'accord. Ouais. Ouais. Fonctionner comme ça dans la vie de tous les jours avec les tentations, vous allez avoir de belles surprises. Hein. Alors, Samson, qu'il franchisse ou pas ses limites, il flirte avec ses limites. Et puis c'est pas tout. Finalement, il n'a pas le droit de se raser la tête. Mais qu'est-ce que va faire Dalila, sa femme ? Elle va lui couper les cheveux. Et vous allez me dire, oui, mais alors c'est pas lui. C'est sa femme. Et puis il dormait, il n'a pas réalisé tout ça. Oui, mais il s'est mis dans la situation telle, dans une situation telle, qu'elle a pu le lier en fait. Et pendant qu'il était lié, il ne pouvait pas bouger, elle lui a coupé les cheveux. Donc il ne s'est pas coupé les cheveux lui-même. Enfin, il s'est mis dans une situation telle que. Voilà, tout ça pour dire, Samson, c'est l'homme de Dieu formidable, mais qui en même temps joue constamment avec les limites des règles qu'on lui a données dès avant sa naissance, en fait. Alors c'est intéressant parce que là, on peut comparer avec Manoah, très rapidement. Manoah, lui, il cherche des règles. Donnez-moi les instructions. Seigneur, enseigne-nous, fais-nous un cours par ton messager sur comment on va faire avec cet enfant. Samson, lui, sa vie est définie par des règles dès avant sa naissance. Donc vous avez le père qui lui aimerait avoir des règles, et le fils, lui, il n'a pas le choix, blam. Dès le ventre de sa mère, on lui donne 3-4 règles à suivre toute sa vie. Intéressant, c'est un profil complètement différent. En même temps, ça tourne autour de cette histoire de règles. Deuxième point, Manoah, lui, il fonctionne au devoir. Quelles sont mes responsabilités ? Samson, lui, il fonctionne au plaisir. Alors, il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue pour savoir que, globalement, il y a deux tendances chez les gens. Il y a des gens qui se réveillent le matin, qui se disent « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» et qui se stressent en disant « mais quelles sont mes responsabilités ?» et si je ne le fais pas, je me sens mal. Puis il y a d'autres personnes qui se lèvent le matin en disant « bon, qu'est-ce qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Moi, je sais où je me situe, je vous le dis pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ma femme, on a discuté de ça et on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur la même ligne, en fait. Et ça explique bien des choses. Fonctionner au devoir, fonctionner au plaisir. Ça peut paraître caricatural, mais ça explique bien des choses. Et puis, sans doute que chacun d'entre nous fonctionne un petit peu avec les deux tendances, suivant les moments. Alors, c'est intéressant de voir ces deux profils complètement opposés. Et puis, troisième point, Manoah, lui, il ne jouit pas du don de Dieu. Il ne profite pas du cadeau que le Seigneur lui fait. Il le transforme en source de pression. Il se met tout de suite la pression pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Samson, lui, c'est le contraire. Il a une sorte de super pouvoir. En fait, il a l'esprit de Dieu qui lui donne une force surhumaine. Et lui, il va s'en servir. Alors là, il ne va pas se priver. Sauf que, il ne va pas s'en servir spécialement pour accomplir une mission de la part de Dieu. Il va le faire de temps en temps, on le voit parfois, mais jamais jusqu'au bout. En fait, il va le faire parfois pour sa propre fantaisie, pour sa vengeance personnelle. Il va tuer des hommes simplement parce qu'il est fâché. Et puis, en fin de compte, il n'aura pas délivré le peuple de Dieu, des Philistins, juste un peu. Il aura semé un peu la pagaille, mais il n'aura pas délivré jusqu'au bout. Vous vous rappelez ce que disait le messager ? Il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Il commencera. Le Seigneur était précis pour le coup. Et puis, finalement, on voit que Manoah ne pense même pas remercier Dieu. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé par mes responsabilités. Et Samson, lui, on a l'impression, Mike Evans vous en dira plus, qu'il oublie que sa vie de Nazir, sa vie entière est un don pour Dieu. Vous vous rappelez le chant tout à l'heure, on a eu des chants qui nous ont rappelé ça. On veut que notre vie soit comme un parfum pour le Seigneur, un parfum d'amour. Lui, normalement, le programme de sa vie s'était défini dès le départ. C'était un nazir de Dieu, un homme entièrement consacré au Seigneur et toute sa vie. Mais je ne crois pas qu'il ait agi dans toutes les facettes de sa vie de cette manière-là. Vous voyez un peu le contraste entre ces deux personnalités. Et je crois qu'en fait, si le Saint-Esprit a voulu que nous ayons ce texte-là dans notre Bible, c'est pas simplement pour notre curiosité historique, c'est aussi pour nous faire réfléchir, savoir où nous sommes, nous interroger sur notre spiritualité, nous demander si nous fonctionnons au devoir, si nous fonctionnons plutôt au plaisir, un peu des deux, avec des dosages différents. Et ce texte nous avertit sur des conséquences spirituelles que cela peut avoir. Et c'est pourquoi j'en viens aux applications de ce texte. Alors j'avais noté des conclusions, excusez-moi. Samson représente en quelque sorte le croyant qui fonctionne au plaisir, un contraste avec son père. Et j'avais noté que comme Samson, notre identité est programmée dès le départ, en tant qu'enfant de Dieu, dès notre nouvelle naissance. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Comme Samson, nous avons des règles à respecter. Lisez les épîtres de Paul. On a des commandements, pas des commandements comme dans la Torah, l'Ancien Testament, mais des commandements d'amour, des choses à éviter, des comportements sur la sexualité, etc., qui sont prohibés pour notre bien. Et puis finalement, comme Samson, notre vie, c'est un cadeau pour Dieu. En tout cas, ça doit être un cadeau pour Dieu. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Alors, les applications. J'en vois plusieurs. En fait, Pierre m'a dit, tu peux te lâcher. Je vais essayer de ne pas faire deux heures là-dessus. Non, simplement quelques minutes pour nous poser des questions. Et là, c'est à chacun d'entre vous, et c'est à moi aussi, de nous interroger, de nous demander, est-ce que je suis concerné? Est-ce que ce passage par l'Esprit de Dieu peut me toucher? Est-ce que je dois remettre en question une partie de mon fonctionnement? Est-ce que ma spiritualité est parfaitement correcte devant Dieu? La réalité, je crois, parce qu'on va parler de la grâce, c'est que nous avons constamment besoin de rééquilibrer, de prendre la boussole et se remettre vers le nord, parce que nous sommes des machines à éviter la grâce de Dieu. Alors, regardons ça. Première chose, comment réagissons-nous à l'Évangile? Pour Manoah, la bonne nouvelle, avec des lettres minuscules, la bonne nouvelle de la naissance d'un fils s'est transformée en source de stress. priori, c'était une bonne nouvelle. Pour lui, automatiquement, c'est un fardeau. Ce qui pose la question, la meilleure nouvelle qui nous soit jamais arrivée, la bonne nouvelle, là, avec des majuscules, comment est-ce que nous y réagissons? Comment est-ce que, en tant qu'être humain, avec nos limites et notre péché, nous fonctionnons avec l'Évangile? Je crois que si nous fonctionnons au devoir, nous sommes en quelque sorte quasiment programmés, heureusement il y a le Saint-Esprit pour nous aider, mais initialement nous sommes programmés pour tout sauf pour la grâce, à cause du péché. Parce que accepter la grâce de Dieu, c'est accepter un cadeau immense, mais un cadeau face auquel on n'aura rien à faire pour l'accepter. Juste la foi, juste le recevoir. Mais vous n'avez pas de règles à respecter. Et l'évangile de Manoah, si je puis dire, c'était l'évangile d'Ikea. Le Seigneur me fait un cadeau, je reçois un paquet, je l'ouvre, je cherche les instructions. Comment ça marche? Vous savez, les fameux dessins, hein, et puis vous les suivez, et puis au bout d'une heure, vous vous rendez compte que vous avez monté un truc à l'envers. Heureusement qu'il y a un manuel, sinon ça serait la catastrophe. Quelles sont ces fameuses instructions? Vous avez des gens, beaucoup, je serais prêt à parier qu'il y en a beaucoup parmi nous ce matin, peut-être moi, je ne vous le dirai pas, beaucoup qui veulent absolument faire quelque chose pour Dieu. Et il faut que nous apprenions à nous contenter, si je puis dire, de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour plaire à Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour accéder au salut. C'est une pure grâce. Mais alors si vous fonctionnez à méthode Ikea, si vous dites je veux savoir quoi faire, Seigneur donne-moi un os à ranger, donne-moi quelque chose à faire, il va falloir apprendre à recevoir la grâce de Dieu. Et si vous l'avez reçu, vous avez reçu l'évangile, accepté le Seigneur Jésus, il va falloir de temps en temps recalibrer les choses, rééquilibrer votre spiritualité pour vous rappeler que vous ne pouvez rien faire pour votre salut. Tout ce que vous faites, aussi bien que ça soit, ça n'apportera rien du tout là-dessus. Ça servira à autre chose, mais pas à être bien devant Dieu. D'où toute une série de questions. Alors, première chose, que faisons-nous de nos devoirs? Et là, je pense aux étudiants notamment, mais pas seulement. Parce qu'au petit déjeuner ce matin, j'ai entendu une expression qui m'a beaucoup intéressé en tant que prof. Hein. Devoir préparatoire. Donc si j'ai bien compris, vous avez des devoirs à faire avant les cours pour mieux profiter de vos cours. Ce qui est très intéressant, ça me donne des idées. Je pense que mes étudiants vous en voudront si je dis que ça vient de l'IBG, mais c'est pas mal en fait. Hein. Sinon, on a des devoirs après, et c'est déjà assez lourd. Vous avez des devoirs avant. Ouais. Et si j'ai bien compris, vous avez pas mal de devoirs pendant l'année. Hein. Ouais? Non? Ouais? Vous voulez qu'on parle à Pierre de tout ça? Bon. Vous avez déjà essayé. Bon. En fait, ils sont comme chez nous. Hein. C'est terrible, ça. Mais la question, il faut que vous fassiez attention. Parce que, vous savez, les études théologiques, ça peut être génial. C'est génial. Je suis sûr que c'est génial ici. Mais il y a toujours un risque. C'est une zone de danger spirituel dans un sens. Vous savez, le meilleur qui vous arrive dans votre ville, l'ennemi peut le tourner en mal, en fait. Hein. Parce qu'on va vous en donner des devoirs pendant toute l'année. Et vous risquez de devenir des machines à devoirs, des machines à produire des devoirs. Il y a deux profils, il y a ceux qui ont un peu de mal, deux profils notamment, il y a ceux qui ont un petit peu de mal avec les études. Et là, ça devient un poids immense. Et alors, croyez-moi sur parole, on ne vous donne pas ça pour vous torturer. En tout cas, ce n'est pas le but numéro un. Non, c'est pour votre bien, pour que vous sachiez mieux profiter des cours, que vous sachiez mieux vous former, vous sachiez mieux profiter de la parole de Dieu, être des bénédictions autour de vous, proclamer l'évangile, etc., etc. Vivre en église, être utile aux autres. Hein. C'est pour votre bien. Mais ça, ça fait joli hein, quand je le dis. Enfin, je ne sais pas. Mais peut-être que dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, pour vous, ça sera une pile de... Vous savez, ce qu'on appelle en anglais la to-do list, liste de choses à faire. Un poids, un fardeau. Et ce qui au départ est une bénédiction parce que vous avez énormément de chance d'être ici, ça risque de devenir une liste de choses à faire, de responsabilités qui vous pèsent et qui finalement transforme un peu votre façon de vivre votre relation avec Dieu. Parce que le pire dans tout ça, c'est que c'est pour Dieu. Donc rendez-vous compte que ces profs, et je fais pareil, vous donnent du boulot, vous donnent des devoirs pour mieux servir Dieu. Parce que vous servez Dieu en vous formant pour son service. Et ça risque de devenir pour vous des fardeaux. Vous risquez de devenir des petits manois et manoites. Vous risquez de recevoir tout ce travail comme un poids. Et ça risque de vous mettre dans des situations spirituelles qui sont en fait pas bonnes. Il faudra constamment rééquilibrer les choses. Prendre votre boussole pour aller vers le nord, vous rappeler de Jésus-Christ, et vous rappeler que vous n'êtes pas d'abord des étudiants, vous êtes d'abord des chrétiens. Chrétiens, votre nom vient de Christ. Vous êtes des enfants de Dieu. Et donc, il ne faudra pas chercher votre identité dans vos études. D'où ma première question. Est-ce que je cherche dans mes devoirs mon identité devant Dieu ? Vous savez, vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle un tel, je viens de Marseille, et je suis étudiante en théologie. Ou étudiant en théologie. Hein ? Et vous pouvez vous dire, de temps en temps, faites le test. À quoi vous pensez quand vous dites, mais qui je suis finalement ? Je suis un étudiant en théologie. Je suis un prof de théologie, un pasteur, un parent, etc. Rien de tout ça ne compte d'abord devant Dieu. Nous sommes, Seigneur, nous voit en Jésus-Christ. Heureusement, heureusement, il nous voit en Jésus-Christ. Vous êtes en Christ. L'apôtre Paul le dit tout le temps. Deuxième chose, est-ce que je trouve dans ces devoirs un moyen de quand même faire quelque chose pour Dieu, pour être bien devant lui ? Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire des œuvres pour le Seigneur. Il y a plein de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Mais le risque, c'est de mettre ça dans notre relation avec Dieu. De se dire, alors, parce qu'on aime, on aime fonctionner comme ça. J'ai quand même essayé de plaire à Dieu, d'être un peu juste devant lui, d'être quelqu'un de bien, en faisant de bonnes actions. Ma femme me dit souvent, je n'ai pas demandé la permission d'en parler, mais ma femme me dit souvent, elle a besoin de se rééquilibrer, de se rappeler la grâce de Dieu. Parce qu'elle fonctionne au devoir, elle ressent parfois le besoin de faire des choses bien pour se sentir bien devant Dieu. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle est heureuse qu'on a des prédications sur la grâce. Parce que c'est ça qui nous permet d'être bien devant Dieu. Rien d'autre ne fonctionne. Tout est accompli, disait Jésus en mourant sur la croix. Tout est déjà fait. Vous n'avez pas à faire vos preuves devant Dieu pour être juste face à lui. Rien du tout. Il n'y a rien à faire. Alors si vous êtes comme Manoah, que vous avez besoin de votre manuel d'instruction, « Seigneur, donne-moi des bonnes actions à faire. Seigneur, donne-moi de faire des bonnes choses pour les autres et tout. » C'est bien, mais ce n'est pas bien pour être sauvé. C'est pas bien pour que Dieu nous voie juste devant lui. Heureusement que le Seigneur nous permet de nous regarder en Christ. C'est sa justice qui nous permet d'être juste devant lui. Tout le reste, c'est du plus, du rab, mais c'est après le salut. Et que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde de subtilement, sans nous en rendre compte, chercher tellement à bien faire que ça devient un petit peu ce qui fait qu'on se sent bien devant Dieu. Grande question, qu'est-ce qui fait que je me sens bien, que je me sens en paix avec Dieu ? Est-ce que la réponse est « Ah mais oui, mais je fais des bonnes choses pour lui, je me forme même en théologie, je prends soin de mes ouailles là, dans mon église, je fais du bien autour de moi. » Tout ça, ça compte pour rien du tout devant le Seigneur quand il s'agit d'être justifié. C'est utile, c'est bien, mais ça ne remplace pas la grâce de Dieu. Ça peut faire obstruction à la grâce de Dieu si c'est mal vécu. Question suivante. Est-ce que j'ai tellement le nez dans mes devoirs, de toutes sortes possibles, que j'oublie de lever les yeux au ciel ? C'était ça que faisait Manoah. Tellement, alors mes responsabilités, qu'est-ce que je dois faire, tout ça ? Il oubliait de remercier le Seigneur. Comme le peuple d'Israël dans son entier d'ailleurs. J'ai trop de travail pour les cours, et j'ai plus le temps de prier. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, je suivais un cours à Vaux-sur-Seine, j'avais une amie étudiante qui m'avait envoyé un email, et à la fin, elle avait mis une mention énigmatique, en majuscule. C'était SLNDTB. SLNDTB. Moi, je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Sors le nez de tes bouquins. Mais c'est terrible, mais ces fameux bouquins de théologie qui peuvent nous servir. Il y a un risque pour des étudiants en théologie, et pour les profs, soyons francs, d'être tellement le nez dedans qu'on oublie de lever la tête, ou de l'incliner pour prier. Mais ça prend tellement de temps à lire, à comprendre, à prendre des notes, etc., que vous avez un risque, et beaucoup d'étudiants en théologie sont tombés dans ce travers, un risque de passer plus de temps à étudier qu'à prier. C'est un vrai challenge. Et il faut s'en rappeler toute l'année. Il vaut mieux lire un petit peu moins et prier plus que de perdre le feu que vous avez, on le voit hein, quand vous chantez, pour le Seigneur au début d'année. Que le Seigneur nous préserve de ça. Et ça, je dis maintenant, bon, c'est bien, vous êtes d'accord, j'espère, j'imagine. Mais le problème, c'est qu'il faut s'en rappeler dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Il faut s'en rappeler tout le temps. Nous sommes des machines à dévier la grâce de Dieu. Il faut constamment se remettre dans le plan du Seigneur. Question suivante. Est-ce que je sais, contrairement à Manoah, recevoir de Dieu gratuitement, par pure grâce, de manière passive, est-ce que je suis capable de ça et de me réjouir? Si je fonctionne au devoir, est-ce que je peux aussi fonctionner au plaisir dans un sens pour accepter comme des pures grâces, des pures joies, les cadeaux que le Seigneur nous fait? Ou est-ce que quand le Seigneur me fait un cadeau, ça devient un fardeau? Le Seigneur me fait le cadeau de me former 1 an, 4 ans en théologie à l'IBG. Est-ce que c'est un cadeau, et ça tout le monde est d'accord. Merci Seigneur. Mais est-ce que ça va devenir une occasion de perdre en qualité dans ma relation avec Dieu parce que je me prends la tête sur mes fameux devoirs préparatoires ou pas? Ça, c'est une question. Et je crois que la clé que nous donne ce chapitre et tout le Nouveau Testament, c'est la reconnaissance. Ma reconnaissance, Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Parce que le Seigneur, en nous demandant de lui rendre grâce sans cesse, il nous donne une clé pour réaliser ce qu'il fait pour nous. Si vous essayez de rendre grâce sans cesse à Dieu, il faut trouver des raisons de lui rendre grâce. Ouais. Et ça permet de nous ouvrir les yeux sur tout ce qui vient de lui dans notre vie. Commencez à raisonner comme ça. Vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose dans votre vie qui vous arrive de bien que vous ne pouvez pas attribuer à Dieu. Avoir des enfants, avoir une bonne vie de famille, avoir à manger, à boire, un toit, servir le Seigneur, avoir une famille dans le Seigneur, etc. Il y a plein de raisons de le remercier. Et les gens qui remercient le plus le Seigneur, je pense que ce sont ceux qui profitent avec plaisir le plus de ce que Dieu leur donne. Ce n'est pas simplement parce que le Seigneur veut qu'on le remercie, qu'il nous demande de lui rendre grâce, c'est pour nous faire du bien. Et puis encore une question. Est-ce que, comme Manoah, je m'intéresse plus à un serviteur de Dieu, c'était le messager, qu'à Dieu lui-même? Et je vais prendre des exemples concrets. Alors, écoutez jusqu'au bout. Est-ce que je préfère lire le commentaire de Carson sur Jean que lire Jean lui-même? Et je prends un bon bouquin là, hein. On est tous d'accord. Si c'est le cas, il y a une question à se poser, hein. Faut commencer à réfléchir. Et croyez-moi sur parole, la théologie c'est passionnant, hein. C'est génial, les bons commentaires, les bons livres, on s'éclate dedans. Le problème c'est quand ça devient plus passionnant que la Bible. Je prends un autre exemple. Si vous passez plus de temps à méditer le livre de Dominique Angers sur la méditation à l'ère numérique, si vous passez plus de temps à méditer ce livre qu'à méditer votre Bible, c'est qu'il y a un problème, et je pense que Dominique est d'accord avec moi. Et il sera derrière, il va se taper la tête contre le mur en disant « Mais c'est le contraire !» Je suis même sûr qu'en fait, en lisant ce livre-là, vous aurez envie de méditer vraiment la parole de Dieu. Si vous prenez plus de plaisir à lire John Piper qu'à prendre du plaisir en Dieu, c'est qu'il y a un paradoxe. Alors, je suis convaincu qu'en lisant ces livres, on a vraiment envie de prendre plaisir en Dieu. Mais vous voyez un petit peu le genre de piste. On a quand même l'esprit tordu, hein. Moi, le premier. L'exégèse, c'est passionnant. Les commentaires, mais c'est juste des notes de bas de page. L'important, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. J'ai pris que des exemples de bons livres, il y en a plein d'autres. Mais ce qui est important, c'est le message du Seigneur pour nous, d'être réceptif à ça, d'ouvrir notre cœur, de prier le Seigneur pour qu'il entretienne nos relations et qu'il l'enrichisse par les livres, par exemple, par la vie des serviteurs de Dieu, tous ces héros de la foi, ces grands hommes, ces grandes femmes, que le Seigneur a utilisé dans la mission, dans le service du Seigneur, sous toutes ses formes. Tout ça, c'est pour nous édifier avec le Seigneur. C'est ce que dit Paul, hein ? Paul, Céphas, Apollos, la vie, la mort, le temps présent, le temps à venir, tout ça, c'est pour vous. C'est pour vous édifier. Parce que le Seigneur veut vous faire grandir avec lui. Mais vous, vous appartenez à Christ, et Christ appartient à Dieu. Il ne faut pas perdre le sens de ce que le Seigneur veut pour nous. Alors voilà des questions qu'il va falloir constamment se poser, je pense régulièrement dans votre vie de tous les jours, les étudiants, et puis en fait, nous tous. Alors pour finir, dernière chose, quelques leçons quand même tirées de la vie de Samson. Parce qu'il y en a qui fonctionnent beaucoup au devoir, et là on va vous essorer hein, pour fonctionner au devoir cette année, positivement, et ça sera un risque. Mais il y a des gens qui fonctionnent au plaisir. Et Samson est une bonne leçon pour eux. D'abord, est-ce que je vis ma vie comme un don pour Dieu ? Parce que, comme j'ai dit, nous sommes un peu tous des nazirs de Dieu. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu, on a même une marque sur nous de propriété de la part du Seigneur, un sceau, et c'est le Saint-Esprit. On ne pouvait pas l'enlever. Le Seigneur vous revendique, nous revendique comme sa propriété. Est-ce que notre vie est vraiment un parfum d'amour pour Dieu ? Que le Seigneur nous donne d'être à la hauteur des chants que nous chantons le dimanche matin. Deuxième question. Est-ce que je sais jouir correctement de la liberté en Christ ? Ou est-ce que, comme Samson, je joue avec les limites ? Je fais tout ce que je peux sans péché, jusqu'au bout, jusqu'aux limites. Je pousse les limites de ce que j'ai le droit de faire sans tomber dans le péché. Le problème, c'est que quand vous approchez d'une falaise de plus en plus, il y a un moment donné où vous tombez. Et l'histoire des tentations, c'est souvent des gens qui croient qu'ils peuvent tenir jusqu'au bout, en regardant l'objet de la convoitise, par exemple, mais sans péché. Le problème, c'est que les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Que le Seigneur nous garde, garde les étudiants dans leur vie personnelle, tout ce qui est sexualité, par exemple, de chuter. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous évite de flirter, dans tous les sens du terme, avec les limites de ce que le Seigneur nous accorde de vivre comme liberté en Christ. Question suivante, on est bientôt à la fin. Vous voyez qu'il y a plein de questions à partir de ces textes. Hein. Est-ce que j'utilise mes dons pour moi-même ou pour Dieu et pour mes frères et sœurs ? Est-ce que comme Samson, j'utilise mon super pouvoir pour me venger contre des Philistins ou des ennemis personnels ? Ou est-ce que je veux mettre tout ça au service du Seigneur ? Tous les talents qu'il m'a donnés, toute la puissance de l'Esprit, tout ce que le Seigneur nous accorde comme grâce pour le servir. Quel est le but de tout ça ? Question à se poser régulièrement dans le service du Seigneur. Et puis, finalement, dernière question, mais John Piper vous dira plus que moi là-dessus. Est-ce que je sais trouver du plaisir en Dieu ? Grande question. Est-ce que comme Samson, je cherche mon plaisir dans tout ce que je peux faire ? Ou est-ce que finalement, ma source de bonheur numéro un est et reste le Seigneur ? Voilà beaucoup de questions que je vous laisse, des questions qu'il faut que nous, et moi le premier, nous nous posions régulièrement dans le service de Dieu, dans les instituts de théologie, et puis aussi dans la vie de tous les jours avec le Seigneur, que nous soyons théologiens, étudiants en théologie ou pas. Amen.